Tout au long de cette retraite, nous avons laissé résonner en nous cette parole, ces paroles, qui nous invitent constamment à marcher dans l'espérance. Marcher, marcher ensemble dans l'espérance. Ces paroles, l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint. Bah oui, tout au long de cette retraite, tout ce que nous avons pu vivre, tout ce que nous vivons là, ici, en ce moment, et au cours de l'Eucharistie, c'est bien dans la mouvance de l'Esprit. Pour vivre dans l'espérance, il faut vivre un enfant de lumière. Alors, saint Paul le dit de façon brève et forte que nous sommes appelés à vivre un enfant de lumière. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Vivez un enfant de lumière, le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. L'espérance dans la lumière, eh bien, voilà comment elle se manifeste, bonté, justice, vérité. Prière, évidemment, nous l'avons vécue et nous la vivons toujours en Église. C'est la belle prière du synode du jubilé. J'évoque souvent ces deux démarches parce que c'est vrai, comme on ne peut que marcher ensemble, on ne peut que marcher en Église. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance et l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire. N'est-ce pas ce que nous avons chanté, que nous avons repris aussi avec le psaume 50 et tout l'écho que cette prière trouve en nos cœurs? Alors l'Esprit, l'Esprit Saint, l'amour en nos cœurs enraciné par l'Esprit, ben tout simplement, on va faire comme une prière litanique à l'Esprit. Et l'Église nous donne ben, tous les mots, cette prière litanique, et ces mots, c'est des symboles. Il y a le symbole des apôtres, l'acte de foi, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Alors, comment donne-t-il la vie? Les symboles l'expriment. Et je vais m'arrêter à chacun de ces symboles, évoqués, comme ça, tout simplement, avec quelques mots de commentaire chaque fois. Premier symbole, c'est l'eau vive. L'eau vive. C'est en Saint Jean, au chapitre 7, versets 37-38. Faites des tentes, et puis Jésus, debout, se mit à proclamer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus désignait ainsi l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean, chapitre 7, versets 37-38. L'Esprit, l'eau vive. On pense évidemment à cette prière d'Ignace d'Antioche. Il va vers le martyr. Et puis, on voudrait quand même plaider pour lui, pour lui éviter quand même cette fin tragique. Mais il lui dit, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon désir terrestre, crucifié. Et il n'y a plus en moi qu'une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Cette eau vive, l'eau du baptême. L'Esprit nous conduit vers la source. L'Esprit nous donne le désir de la source. L'Esprit nous donne sans cesse de nous ressourcer dans la parole de Dieu, dans sa présence, dans toutes les manifestations de sa vie et de son amour. Ressourcement. Voilà un mot qui est très fort. Et j'allais dire, surtout dans des périodes peut-être plus difficiles, dans des périodes où on se dit, mais il faut quand même penser à l'avenir, il y a plein de repères à donner, à définir. Comme l'a dit fort bien le penseur chrétien, là, qui ne manquait pas de vigueur dans ses propos, il disait à notre époque, souvent, il y a trop de points de vue et pas assez de points d'eau, en jouant sur les mots. Eh bien, il y a quelque chose de, là, je veux dire, d'éclairant et de vivifiant. C'est vrai, les rencontres, c'est pas simplement parce qu'on aurait dit une prière au début puis à la fin. C'est être habité par l'Esprit. C'est éclairant aussi. Bon, simplement, hein, ce sera quelques mots évocateurs pour laisser, je veux dire, la parole se dire en nous. Mais je pense à ceci, à un mot qu'on trouve fortement dans la spiritualité ignatienne. C'est le mot ordonner. Ordonner. Alors, ordonner, c'est déjà mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans sa vie, dans son emploi du temps, qu'il soit très pris l'emploi du temps, ou bien pas tellement pris. La dispersion, quelquefois, vous savez, elle est là, disperse. Pourquoi je vais commencer, je sais pas. Bon, mettre de l'ordre. Ordonner. Mais on ne peut pas ordonner si c'est pas orienté. Quel est l'esprit qui t'habite? Ben, laisse l'esprit là. Laisse l'Esprit te dire à travers tout ce que tu perçois, ta relecture de vie. L'eau vive. L'Esprit, ressourcement. L'eau vive. Mais l'Esprit, c'est aussi la lumière, le feu. Le feu de Pentecôte. Remarquons que c'est des langues de feu. C'est la communication. C'est un feu là qui crée aussi, en purifiant, mais ces liens pour que nous puissions témoigner du Christ. L'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit qui fait que la diversité ne devient pas comme une sorte d'obstacle. Mais elle devient richesse, mais à condition de se laisser enseigner aussi de l'intérieur. L'esprit de Pentecôte, l'esprit de lumière, l'esprit de feu. L'esprit qui, là, purifie les lèvres du prophète. Prophète Isaïe. L'esprit qui brûle dans le cœur de Jérémie quand il dit « Oh là là !» annoncer la parole de Dieu, mais quelle mission m'a été confiée ? Lui qui est tout en sensibilité, qui dit « je dois toujours dire des choses, enfin, difficiles à entendre, percutantes, Seigneur », il dit « je vais me taire ». Eh bien, il dit « non, je ne peux pas me taire ». Parce qu'il y a en moi comme un feu qui brûle. Le feu de l'esprit. C'est vrai que ces mots sont éclairants. On ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec la vérité de Dieu. On ne joue pas avec l'amour de Dieu. L'esprit, c'est ce feu vraiment qui purifie. C'est, voilà, discernement et témoignage. Discernement et témoignage, oui, comme disait à propos de la parabole sur la lampe. La lampe, elle est claire, mais voilà, il faut encore qu'elle soit bien posée. Et posée, c'est pas, voilà, je suis la lumière, non, mais justement, cette lumière, là, qui éclaire ma vie, comme disait Jean-Baptiste, hein, il n'était pas la lumière, il était témoin de la lumière. Tout ce discernement, là, on ne joue pas avec le feu, mais voilà. On laisse justement là ce que le Seigneur met en nous de désir brûlant. Comme disait François d'Assise, quand il parlait du discernement, du feu, de l'esprit. Il disait toujours qu'il y avait ce mot, ces mots, purifier, illuminer, embraser. Purifier, toutes ces demandes de pardon. Elles reviennent constamment dans la liturgie, puis on ne le dit pas qu'une fois. Parce que je crois que c'est quand on découvre le pardon de Dieu qu'on désire encore plus être renouvelé par son pardon. C'est pas répétitif. Quand on dit, mais les saints, quand même, oh, ils en rajoutent un peu en s'humiliant. Non, non. C'était que plus, hein, là. Plus on se laisse prendre par l'amour de Dieu, plus on reconnaît quoi, ce décalage. Mais non pas pour, du coup, ben voilà, ben, je peux pas, non. Purifier, illuminer, embraser. La lumière et le feu. Et puis, alors là, vive la lumière et le feu, mais il y a le souffle et le vent. Le souffle est fort, hein, le vent de Pentecôte. Et en même temps, il y a ces paroles que Jésus dit à Nicodème, Saint Jean, au chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix. Oui, c'est le vent quelquefois qui souffle fort, hein. Mais c'est aussi, voilà, ce murmure en toi. Comme il y a le murmure de l'eau vive, hein, il y a aussi ce murmure du souffle de Dieu. Quelquefois, si vous voulez, quand on n'avait pas tous les moyens de s'orienter comme ça, voilà, on mouillait le doigt pour savoir d'où vient le vent. Mais quelquefois, il faut aussi, c'est-à-dire tourner la page de l'Écriture pour, parce qu'il y a quelqu'un qui sait d'où vient le vent, c'est le Christ. Et saint Paul le dit bien, personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est sous la mouvance de l'Esprit. Sans laisser ce souffle de l'esprit. Jésus, il a soufflé aussi sur les apôtres. Récit encore de l'apparition du ressuscité, Jean au chapitre 20, versets 21-22. Alors Jésus leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Le feu, C'est le feu de cette disponibilité. C'est cette inspiration qui n'est pas simplement celle d'un moment, mais qui accueille ce que le Seigneur murmure en nous, ce que l'Esprit nous fait entendre dans le cœur, l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Le vent, le souffle. C'est vrai, le vent qui souffle sur l'Église. Souvent, j'ai réagi un peu quand on disait, quelquefois avec tout ce qu'il y a de bon, tout le mouvement charismatique, mais là aussi qui appelle un discernement. Parce que quand on parlait de nouvelle Pentecôte, je dis, la nouvelle Pentecôte, mais il y en a assez avec la première quand même, Pentecôte. Ça souffle un bon coup. Et puis ça nous anime constamment. Mais c'est vrai. Des fois on dit, mais on n'a plus le même souffle. Alors le souffle, c'est pas simplement quelque chose, on est poussé. Vent, non. Quand le vent souffle trop fort, on risque de tomber. Et puis quelquefois, on va pas tout à fait dans la direction où on voudrait aller. Mais c'est cette disponibilité, là encore une fois, discernée, portée dans le silence, dans la prière, le souffle et le vent. L'eau, le feu, la lumière, le souffle et le vent. Mais il y a aussi la colombe, symbole de la colombe. C'est en Saint Jean au chapitre 1, verset 32, à propos du baptême du Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 32. J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Baptême du Seigneur. Ah, la colombe! Oui, c'est vrai, il y a ce rapprochement que les exégètes font en disant, c'est vrai, attention, elle est riche, la parole de Dieu, faut pas la réduire à une seule, évocation. Mais on pense quand même à la création. C'est-à-dire que là où souffle l'Esprit, il nous fait découvrir que dans le Christ, c'est le commencement, le nouveau commencement, le vrai commencement. Mais ça nous, on le dit dans le psaume 50, crée en nous un cœur nouveau. C'est une création incessante. L'Esprit, là, c'est une création incessante. Et souvent, peut-être aussi, quand on entend la parole de Dieu, c'est, cette parole, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je vais en faire? Mais on est un peu comme Nicodème. Je l'ai dit plusieurs fois. Connaître, il y a le mot naître dans le mot connaître. C'est naître de nouveau. La parole du Seigneur, sans cesse, elle nous crée. Elle nous recrée. Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. On ne se l'approprie pas. On la laisse vraiment se dire, c'est vrai, deviens nôtre avec nos mots, avec pour la dire. Mais sans cesse, recréer. On a besoin quelquefois d'être recréé, en particulier quand il s'agit de l'espérance. L'espérance, elle pourrait être répétitive, elle pourrait être comme une nostalgie. Les fidélités, oui, prendre en compte la réalité, prendre en compte l'histoire, prendre en compte le contexte. Mais en même temps, pour découvrir toujours ce qu'elle apporte de nouveau. La colombe. Mais la colombe, c'est aussi, et ça s'est passé, si je puis dire, dans l'ensemble de la culture, c'est la colombe de la paix. C'est là où il y a la destruction, le déluge. En ce moment, quelquefois, c'est vrai quand on dit déluge de bombes, déluge de... Tous ceux qui vraiment, c'est que la création, elle est fragile, menacée, hein, c'est Noé et l'arche. Et puis, ben là, un colon qui revient avec son rameau, là, d'olivier dans le bec. Là. Là où il y a l'esprit, il y a la réconciliation. Et puis, encore, ben, le cantique des cantiques, un chant d'alliance. Ah ben oui, c'est l'alliance. C'est-à-dire que dans l'esprit, voilà, ce que le Christ a accompli en donnant sa vie jusqu'au bout, c'est pour nous rassembler dans l'unité, dans la communion, rassembler, recréer, réconcilier, rassembler. Je pense qu'il y a quelque chose d'important là, comme dans tous les symboles de l'esprit. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, et moi je le dis assez souvent, bon, c'est sûr, hein, bon, la démarche synodale, parce que encore une fois, souvent quand moi je parle de l'espérance, je ne peux pas le dissocier de cette démarche d'une église synodale, d'une église où on marche ensemble, d'une église où chacun bon, est appelé à donner le meilleur de lui-même, dans la diversité, encore une fois, des vocations, dans les... Mais j'ai souffert, et je souffre encore quand on dit « mais ça n'apporte rien ». On débat, mais en vue de quoi ? Qu'est-ce qui ressort comme orientation ? Les orientations, c'est vrai, il y en a, elles sont belles. Elles sont belles, tout le travail qui a été fait là, dans l'aggiornamento quand même, hein. C'est important, concile, et puis après, puis qu'elles font rêver un peu que ça y est, quand même, on avait ouvert des voies et que, oh là là, long chemin encore, hein, du peuple de Dieu. Alors, là où il y a l'Esprit Saint, hein, l'Esprit est là, symbole, mais tous les autres aussi, symboles précédents, hein. Ben, il nous est donné de vivre aujourd'hui, dans le présent, ben, ce qui vraiment prépare l'avenir. L'avenir, c'est pas simplement se projeter en disant, qu'est-ce qu'on peut devenir? Et c'est vrai, il faut le faire, hein. Préoccupant, hein, dans toutes les réalités de la vie de l'Église. Un diocèse, ça y est, reconfiguration des paroisses, mais il faut faire des choses un peu nouvelles, équipe, conseil, ainsi de suite. Il faut le faire, il faut le mettre en œuvre. Mais en même temps, en vivant, on ne va pas s'arrêter de vivre, à dire, allez, pause, et puis on décide. Oui, il faut décider, mais c'est dans l'esprit même de ce que l'on vit constamment. Parce qu'il y a des choses très belles, enfin, je le dis comme ça, hein, vous savez, on regarde quand même, aujourd'hui, hein, dans les diocèses ou ailleurs, dans des communautés de vie apostolique, moi je pense à nous, sulpiciens, pense à vous, regardez quand même, hein, aujourd'hui, cette diversité vient d'ailleurs, hein, on vient, et ensemble. Alors personnellement, bon, c'est vrai, toujours, ben voilà, supérieur, communauté, dans des périodes pas faciles, hein, depuis mai 68 et puis par la suite. Hein. Mais je pense un jour, on avait fait le point, là, avec des séminaristes, quoi, qui, bon, étaient au terme du séminaire. Ils étaient diacres, ils allaient être ordonnés prêtres, hein, et ils relisaient un peu leur parcours, là, le parcours qu'on avait fait. Ah, ils disaient, ça n'a pas été simple entre nous, hein. Ils étaient 20 ou 25 dans une même année encore de séminaire à ce moment-là. C'est nombreux. Et il y en a un qui, là, a trouvé les mots. Il a dit ceci. On a fait passer souvent la charrue quand même avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire qu'au début, bon, voilà, rencontrer, on m'a dit, ben vraiment, hein, on est divers, hein. Il y en avait qui venaient d'autres pays, qui venaient d'autres cultures. Ah, faut s'expliquer quand même. Bon. Elle disait, je crois que c'est pas la bonne... Bon, ouais, faut s'expliquer, il faut parler. Mais, tout d'abord, prendre conscience de notre diversité. Prendre conscience que, voilà, on est différent, et puis, voilà, reconnaître la différence. C'est déjà pas mal, hein. Mais ça ne suffit pas. Puis après, comprendre la différence, comprendre d'où on vient, qu'est-ce qui nous a marqué, quels sont les passages, comme ça. Oh, c'est pas pour le dire en quelques mots, hein. Il faut du temps, hein. 6 ans de séminaire, hein, ça suffisait pas encore. Prendre conscience de la diversité. Comprendre. Voilà. Se dire, il y a un arrière-pays, hein. Et l'arrière-pays, c'est pas simplement la géographie, hein. C'est, tout ce vécu. Et vous savez aussi, comme moi, que lorsqu'on a trop précipité les choses, hein, il y a eu des prises de conscience, hein, mais il y a des prises de conscience qui peuvent accentuer la division. On s'est tout dit. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et puis peut-être quand on s'est tout dit, on s'est dit des choses qu'il fallait pas dire de cette manière-là. Ou qu'il fallait porter dans le silence, laisser mûrir, vivre, et non pas simplement en s'expliquant, mais en vivant autrement. Et après, c'est vrai, il y a l'explication, en un mot évidemment qui fait peur, une certaine confrontation. Quand Saint-Ignace dit, sauver la proposition de l'autre, entendre l'autre, dire « je suis pas d'accord, mais il y a quelque chose quand même qui fait que peut-être ce à quoi je tiens beaucoup, je dois pas y renoncer, je dois l'accueillir dans l'esprit, de vérité. » Mais voilà, faire en sorte que, et c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose aussi qu'on est en train de vivre. Et je pense que là, pas facile, hein, parce que c'est plus facile de dire « on a décidé, on met ça en œuvre, et puis voilà, il faut que ça s'articule un peu mieux. Hein, » il faut qu'il y ait cet élan. Mais cet élan, dans l'esprit, il est fait, quoi, de cette prise en compte du présent. Dis-moi comment tu vis le présent, et je te dirai comment tu prépares l'avenir. Et voilà, l'esprit. Bon, ça serait tous les symboles, en définitive, se complètent. Hein. C'est, s'il y a plusieurs symboles, c'est qu'on ne peut pas tout dire à la fois. Hein. On ne peut pas te dire l'eau vive, la lumière, le feu, le souffle, le vent, comme la colombe. Et bien là, parce qu'on ne peut pas tout dire à la fois, et que c'est un combat, spirituel, une conversion. L'esprit, c'est aussi le paraclet. Un mot un peu compliqué. Alors, je lis simplement ce passage. C'est en Saint Jean, au chapitre 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16, 17. Jésus dit: si vous m'aimez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Paraclet, ça veut dire défenseur, consolateur, avocat. Celui qui appelle, Kalein, appelé, et qui appelle en faveur d'eux. Qui restera avec vous pour toujours, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Regardez la gradation qu'il y a dans ces mots. Jésus dit, tout d'abord, que le Père enverra un autre paraclet. Mais autre par rapport à qui? Par rapport à lui, le Christ. Il dit, je m'en vais et je reste avec vous. Mais c'est paradoxal. Mais c'est l'Esprit. L'Esprit souffla sur eux, l'Esprit. Autre paraclet, c'est par rapport au Christ. Mais Seigneur, tu t'en vas, mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je vous envoie quelqu'un qui sera le défenseur et il travaillera, hein, en mon nom, dans la mission que le Père m'a confiée. Paraclet, il restera avec vous pour toujours, avec d'abord. Puis après, vous le connaissez, il demeure auprès de vous et il est en vous. Moi, je trouve que tous ces mots sont importants, parce que c'est des mots qu'on emploie. Quand on dit, vous savez, voilà, mais vous savez, je reste en communion avec vous. Bon, si c'est pas des mots qui terminent une lettre, ça veut dire quelque chose quand même. Avec, en disant, est-ce que tu mens ou est-ce que... Bon, c'est une formule de politesse, simplement. Avec. Mais avec... mais c'est loin quand même. Hein. Avec vous, puis après, qu'est-ce qu'il est dit par le Christ? Vous, vous le connaissez, il demeure auprès de vous. C'est-à-dire, il paraît loin, mais il n'est pas loin. Il est auprès, au plus près de toi. Mais encore mieux, il est en vous. Avec, auprès, en vous. Et l'Esprit, il défend en nous la cause du Christ. C'est l'esprit de fidélité, l'esprit de courage, l'esprit de paix. Et puis un dernier symbole, comme ça, mais toute la richesse, c'est l'onction. Ah, l'onction. On pense évidemment à l'onction du Saint-Crème, hein, lors de la confirmation, l'ordination, voilà. Donc Jésus dit... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie parce que sous l'action d'Esprit Saint, la parole pénètre en nous. La parole nous instruit de l'intérieur. Quand Jésus dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. L'Esprit. Jean, chapitre 14, verset 26. L'Esprit nous enseignera toute chose. L'Esprit. Je le disais à propos de Frère Roger, quand il disait « Là où personne ne ressemble à personne, l'Esprit t'attend. » C'est tout ce temps quoi, du recueillement, tout ce temps du silence. Silence où on accueille ce mystère de l'autre. Alors, je disais que, en définitive, et ce sera, si vous voulez, la conclusion, je trouve que c'est très éclairant, ces mots, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez un enfant de lumière. Vivez un enfant de lumière. Et quel est le fruit de la lumière? Bon, il y a les fruits de l'esprit, nous les connaissons aussi, tels que Paul les évoquait. Mais là, il y en a trois, et ils sont dans l'ordre. Bonté, justice, vérité. Bonté. Inscrit sur ce fond de bonté. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Première chose. Ce que tu vis, ce que tu fais, ce dont tu souffres, essaie toujours de le relire dans le langage de l'amour. Mais l'amour qui vient de Dieu, hein. L'amour, c'est la source, c'est bonté, tout bonté. Justice, justice. La justice, c'est être accordé à. Quand on dit Joseph le juste, on dit ajusté à, vous savez, pour mieux comprendre. Ben, c'est toujours, voilà, de vivre dans cet ajustement, dans cet accord. Bon, la parole de Dieu, que tu découvres de toi, ce que tu vis, ce que bon, tu approfondis. Et puis vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est pas les quatre vérités. La vérité, c'est laisser justement là la parole de Dieu favoriser, susciter les discernements. Alors c'est cela, en définitive, la véritable espérance. Et je termine en disant que là, l'esprit, c'est aussi la joie dans l'esprit. La joie dans l'esprit. Alors, je terminerai par là, avec un texte qu'on trouve souvent dans les centres spirituels ignatiens. Et alors, l'important aussi, ben, je pense, en particulier, bon, sœur aveugle de Saint-Paul, aveugle, parce que le père qui a écrit ça, c'était le père Jean Gouverneur, et il était aveugle à la fin. Il avait vraiment avec sa canne, il était conduit, là. Et il a écrit des choses très belles sur la joie. « Dis-moi quelle est ta joie. » Je lis. Le propre de Dieu, il cite les exercices de saint Ignace, est donné la véritable allégresse et joie spirituelle en supprimant tout trouble, toute tristesse que suscite l'adversaire. Cette expérience concerne ceux qui ont répondu à l'appel du Christ, résolus à suivre ce pauvre, toujours itinérant, ce prédicant, humilié par des contradicteurs plus doctes ou plus dévots que lui. Eh bien, celui qui marche avec le Christ se dégage progressivement de l'envie de s'approprier les biens dont il dispose, l'argent, la santé, le confort, mais aussi connaissances et talents. De tout cela, il ne méprise rien. Il s'en sert largement pour le service de tous. Mais si c'est bien ou quelque chose de ce genre vient à lui manquer, il ne reste pas troublé longtemps. En se pénétrant de l'esprit du Christ, il perd peu à peu le goût de paraître, de dominer par vanité, d'être haut placé, exposé au regard complaisant. Il ne craint pas non plus les responsabilités qui lui sont données. Il n'est pas entravé par ce qu'on pense de lui, pas abattu par les critiques, désencombré de lui-même. Il s'en va accomplir sa mission parmi les hommes, avec une joie qui ne se confond pas avec l'euphorie. Dans les moments où la joie d'être à Dieu et l'adresse d'un accord parfait, qu'on chante l'âme, la porte se trouve fermée au trouble, à la tristesse qui rôde à l'encours. Situation précaire toutefois, si l'on ne maintient pas les conditions de détachement pour conserver la joie. Je vis dans la tristesse, de quoi ne suis-je pas libre ? Voilà, l'esprit de liberté. C'est aussi l'esprit, je vis dans la tristesse, de quoi ne suis-je pas libre ? La joie habite les hommes dont le désir le plus cher est d'accompagner le Christ dans le don qu'il fait de lui-même. Saint Paul, ma vie, je la vis. Dans la foi au Fils de Dieu, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Leur pays est au milieu du nôtre. Ils y accèdent par le détachement d'eux-mêmes pour donner la préférence à Dieu. La préférence à Dieu, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est sous l'action de l'Esprit. Qu'il nous soit donné de le vivre et Nous allons, là, tout à l'heure, au cœur de l'Eucharistie, voilà, ensemble, dans le respect du mystère de chacun, mais vivre cette communion dans laquelle s'enracine l'espérance.